Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Touchdown! Touchdown! Touchdown!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 505 du podcast John Actu. On continue nos émissions quotidiennes désormais. C'est la première semaine, donc on est content de rôder, tu vois, un peu toujours dire « Ah, on est de retour, on est de retour ». Et on est de retour aujourd'hui avec Victor Roulier. Bonjour Victor.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Victor, avec toi, on va parler preview comme la semaine dernière. On va faire la présentation de la semaine de NFL à venir, la deuxième donc en 2022 après une première semaine déjà dingue. Il pourrait y avoir encore plein de surprises lors du deuxième match. Je ne sais pas pour toi Victor, mais je trouve qu'il y a énormément de matchs incertains cette semaine.
C'est très indécis. C'est vraiment très indécis et je suis assez d'accord avec toi. Autant la première semaine, on se disait « Oh, bah, y a l'air d'avoir des certitudes, bam, tout a explosé, tout a volé en éclats ». Et là, deuxième semaine, il y a très peu de certitudes.
Je trouve, j'ai fait un premier passage, tu vois, sur les cotes Unibet pour jeter un œil pour la suite de l'émission, et j'ai trouvé que c'était assez galère. Avant tout ça, on va se demander si la NFC est en pleine décadence, et je l'ai dit, on terminera avec les cotes. Entre temps, évidemment, il y aura l'affiche de la semaine et les matchs sous la forme du hypomètre, du plus intéressant pour nous au moins intéressant. C'est parti.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Il n'y a pas si longtemps, Victor, la NFC faisait peur. La NFC West était blindée d'équipes solides. Tom Brady venait d'arriver à la tête d'une armada chez les Buccaneers. Tom Brady était en pleine bourre. Aaron Rodgers, pardon, était en pleine bourre aussi. Drew Brees et Sean Payton étaient encore là. Matt Ryan était encore là. Les Cowboys avaient une ligne offensive. Oui, mais cette année, c'est beaucoup plus compliqué, Victor, et ça pourrait durer. Première question très simple, est-ce qu'il y a un favori aujourd'hui en NFC ?
Je dirais qu'il y a un favori par défaut qui est Tampa Bay, parce qu'il y a moins d'incertitudes, il y a une certaine continuité, il y a Tom Brady dont on a arrêté de penser depuis quelques années qu'il va à un moment exploser en vol à cause de l'âge. Donc je dirais qu'il y a les Buccaneers, mais honnêtement, c'est en effet une fin de cycle, on va en parler pour la conférence, mais du coup ça la rend extrêmement ouverte. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent rêver au Super Bowl.
C'est, alors en effet, c'est l'avantage, c'est que ça va la rendre ouverte. On finira là-dessus pour spoiler un peu la fin. Mais le constat de base, c'est qu'en effet, la NFC est un peu en train de plonger en termes de qualité au sommet. Tu l'as dit, je suis d'accord avec toi, les Buccaneers, c'est favori. Je ne sais plus si c'est Raphaël dans la rédaction qui m'a dit « Ah, t'es un peu dur par défaut ». Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu par défaut parce que, comme tu l'as dit, y a une continuité, il y a une grosse défense, il y a Tom Brady à la tête de l'attaque. Mais quand t'as un quarterback de 45 ans, tout Tom Brady qu'il est, bien évidemment, comme leader de ta conférence, c'est qu'il y a quand même un petit problème. Et ça pose la question, est-ce qu'il y a des franchise quarterbacks en NFC ?
En fait, il faut se dire que pour moi, ce manque de talent, il est aussi, il illustre la réussite qu'a eu la NFL à toujours équilibrer cette ligue. C'est-à-dire qu'entre 85-97, la NFC gagne tous les Super Bowls pendant 12 ans, il faut quand même se dire. Derrière, dans les années 2000, l'AFC gagne quasiment tous les Super Bowls. Bon, il y a évidemment quelques exceptions, comme les Rams ou les Buccaneers, mais globalement, domination d'AFC, de Peyton Manning, de Tom Brady, etc., de Ben Roethlisberger. Et en fait, il y a ce renouvellement constant de toutes les équipes. Et en effet, l'AFC, bah, il y a encore quelques saisons, l'AFC boitillait un petit peu. Et puis Joe Burrow, et puis Lamar Jackson, et puis Patrick Mahomes, et puis Deshaun Watson.
Bah,
et là, d'un
combien
coup...
Combien de fois on a dit « Ah, mais Tom Brady et les Patriots, c'est parce qu'il n'y a rien en face qui sont tout le temps au Super Bowl. » On l'a entendu, hein.
Oui, mais je pense que c'était quand même assez faux. Il y avait les Colts de Manning, il y avait les Steelers de Roethlisberger, il y avait quand même beaucoup de choses.
Je parle sur notamment les dernières années de...
Oui, peut-être le deuxième triplé. Le deuxième triplé, effectivement, c'est peut-être plus entendable. Mais voilà, je pense qu'on a... Enfin, je veux dire, à part les Jets, il n'y a aucune équipe qui n'a pas été en playoff ces 5 dernières années. Alors, je veux dire clairement, moi, je trouve que ça se renouvelle.
Victor Roulier répondait à ma question, les Français veulent savoir. Elle n'était pas de me dire que l'AFC a des quarterbacks incroyables, puisque c'est sûr, Josh Allen, Patrick Mahomes, Justin Herbert, Russell Wilson, Lamar Jackson, Joe Burrow, Trevor Lawrence, même si ça reste un espoir, même Deshaun Watson, si on va par là, les super quarterbacks sont en AFC. Et donc, est-ce qu'il y a des franchise quarterbacks en NFC?
Oui, mais que des vieux. Il y a Brady, il y a Rodgers, il y a Stafford. Donc, globalement, c'est pas beaucoup.
Donc, je n'ai pas entendu les noms Kyler Murray, Dak Prescott.
Alors, Kyler Murray, je dirais que c'est un des seuls qui peut y prétendre s'il passe enfin un cap. Dak Prescott, non. Je pense qu'il est très bon, mais franchise quarterback, non. Moi, je n'y crois toujours pas. Kirk Cousins, j'adore et je trouve qu'il est injustement raillé depuis des années, mais on n'est pas dans la catégorie franchise quarterback. Donc non, je pense que voilà, on a trois vieux qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt, mais oui, le renouvellement se fait attendre et ça commence à devenir. On peut imaginer qu'il va y avoir des années de vaches maigres, oui.
Du coup, est-ce qu'il y a vraiment intérêt à ce qu'ils draftent bien ces équipes de la NFC? Parce que sinon, ça va être terrible à regarder pour les années à venir. Tu l'as dit, Rodgers, Brady, Stafford, c'est quand même sur la fin. Est-ce qu'il y a des joueurs, déjà, si on regarde loin, est-ce qu'il y a déjà des joueurs pour les sauver lors de la prochaine draft? Tu vois, par exemple. Parce que j'en suis là, au niveau. Tu disais, il y a Kyler Murray qui est la seule vraie jeune pousse, en fait, de cette conférence pour l'instant. Est-ce qu'ils peuvent être sauvés dans les années à venir? Parce que tu disais, ça se rééquilibre d'un temps à l'autre. L'AFC a fait le plein de jeunes quarterbacks. Est-ce que ce sera autour de la NFC dans les drafts suivantes, quoi?
Bah écoute, dans la draft prochaine, déjà, il y a pas mal de monde. Donc ça peut déjà, à court terme, aider. En plus, on a vu qu'il se passe quand même des choses. Enfin, le trade de Russell Wilson, normalement, un franchise quarterback, ça ne bouge pas. Et on voit que le monde est en train de changer. Et par exemple, un Lamar Jackson, l'année prochaine, il peut très bien être en NFC. Ce n'est pas impossible à imaginer. Donc, alors, les trades, c'est peut-être la cerise sur le gâteau. Mais au niveau de la draft, oui, il y a des belles générations. Là, on a eu une année catastrophique au niveau des quarterbacks, au niveau de la draft. Mais j'ai envie de dire que 2023 est prometteur, 2024 est pas mal. Donc ça fait partie, oui, des équipes pour qui je suis optimiste.
Après, il faut qu'ils draftent bien, parce qu'en vrai, s'ils sont dans cette panade-là aussi, la NFC, c'est qu'ils n'ont pas très bien drafté. Les Commanders, c'est Dwayne Haskins, les Giants, c'est Daniel Jones, les Bears, ça a été Mitchell Trubisky qui n'a pas marché, les Lions, ça a pas, du coup, c'est Stafford dont ils se sont séparés, mais... Bon voilà, il y a tous eu quand même des problèmes au niveau de la draft. Les Panthers, c'est une situation compliquée au poste de quarterback. C'est aussi ça qui les a mis dedans. Donc la draft ne garantit pas qu'ils s'en sortent tout de suite. Après, il y a autre chose, tu l'as dit, ça va être très ouvert cette année. Et ça, en effet, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire Buccaneers-Rams en haut et derrière, c'est... Alors pas tout est ouvert évidemment, je vous dis pas que les Bears seront en playoff ou au Super Bowl, mais est-ce que voilà, derrière ces deux-là, grosso modo, tout est ouvert et c'est l'année ou jamais, quoi?
Bah, pour des équipes comme les Vikings qui tournent autour depuis des années, comme les Eagles qui ont une petite hype, comme les Cardinals qui peuvent se reprendre, comme les 49ers, qui sont solides avec une interrogation au poste de quarterback. Mais oui, ça peut être une année où une équipe moyenne plus prend chaud et va au Super Bowl, alors que dans d'autres années, ils auraient perdu en wildcard ou autre. Donc oui, oui, il y a une vraie opportunité, parce que bon, ben voilà, un Brady, un Stafford, un Rodgers, pour différentes raisons, c'est pas la sécurité sociale. Donc oui, oui, il y a une vraie opportunité à prendre.
Allez, tu mises sur qui ? Tu m'en donnes un ou deux pour la surprise.
Bah, surprise, bah, je vais donner les Eagles. Hein,
allez. Eh bien, écoute, moi,
on est en over.
Eh bien, écoute, moi, je donne les Vikings parce que j'aime bien ce qu'a fait leur nouveau coach sur la première semaine. C'est une totale enflammade, évidemment. Mais du coup, Vikings, Eagles en possible surprise. Jean-Michel, transition, c'est l'affiche de la semaine.
Top line on three. One, two, three, top line.
Eagles Vikings dans la nuit de lundi à mardi à 2h30 du matin. Ce sera donc un des Monday Night Football parce qu'il y en a deux cette semaine. Les deux équipes ont gagné en première semaine en attaquant bien. Est-ce qu'on aura forcément un festival offensif, Victor ?
Oui, je pense que oui. Parce que d'un côté, il y a les Eagles bon, qui ont été, on va dire, caricaturaux avec une attaque de feu et une défense qui a pris l'eau. Hein. Clairement, Jonathan Gannon semble toujours aussi perdu que l'année dernière. Et en plus, ils sont pas capables de plaquer, donc ça, c'est vrai que c'est un problème. De l'autre côté, les Vikings, ils ont fait un match assez complet en attaque et en défense. Mais en défense, j'ai envie de dire, est-ce que vraiment il y avait du matos en face ? Parce que Rodgers, il était privé de ses deux tackles, d'un garde. Il a un groupe de receveurs qui est très inexpérimenté et assez compliqué à mettre en place. Donc en gros, il a joué quasiment qu'avec ses running backs. Donc je suis pas sûr que c'était un vrai test pour cette défense des Vikings. Donc, d'instinct, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va avoir un match spectaculaire avec beaucoup de yards des deux côtés.
455 pour les Eagles en semaine 1 au niveau des yards, 395 pour les Vikings. Il y a des joueurs d'exception des deux côtés, Justin Jefferson pour Minnesota et Jay Brown pour les Eagles, les deux étaient en feu. Et j'en reviens à ce que tu disais, la question, c'est ça, c'est qui a la meilleure défense ? Donc, statistiquement, sur le papier, il n'y a pas photo, comme tu l'as dit, Minnesota a tenu des Packers qui étaient décimés en attaque. Donc, c'est pas très significatif pour moi. Les Eagles avaient 17 points d'avance au début du dernier quart contre les Lions. Ils ont laissé Détroit revenir dans le match. Ce trou d'air. Alors, je me doute qu'il t'a inquiété parce que t'es un peu biaisé sur les, sur les Eagles. Mais il y a quand même eu des bonnes choses du coup en début de match en défense.
Oui, contre la passe. Contre la course, ça a été compliqué tout le match. Contre la passe, oui. Mais quand Jared Goff s'est un peu réveillé, ça a été plus facile pour lui. Je reste très inquiet. Et là, je parle pas vraiment, même pas forcément en tant que supporter, mais c'est-à-dire que, avec tout le respect que j'ai pour les Lions, ils mettent 35 points en attaque. Cette même attaque, parce qu'elle a quasiment pas changé, hein, à part un ou deux receveurs en plus, les Eagles se remettent 44-6 il y a 8 mois. Donc, je pense que les Eagles ont un vrai problème d'utilisation du personnel, de vraiment finir des plaquages et d'organisation. Donc, pour moi, il y a une vraie opportunité pour les Vikings d'enfoncer le clou, parce que oui, ce n'était que la semaine 1, mais là, ce n'est que la semaine 2. Donc, il y a une vraie opportunité pour les Vikings d'enfoncer le clou. En plus, cerise sur les gâteaux pour les Vikings, s'ils enfoncent le clou avec Justin Jefferson, que des Eagles sont entre guillemets boudés à la draft, bah là, ça sera, on va dire pour Jefferson, je suis sûr qu'il y a une sorte de match revanche hein, pour lui. Donc, on sait comment fonctionnent les joueurs. Ils ont en général beaucoup de mal avec les équipes qui passent sur eux. Bon, bah, je pense qu'il y a une vraie opportunité pour exploser offensivement.
Ouais. Non, il y a quelque chose des deux côtés. Quelle va être la clé du coup de ce match pour toi ? Parce que on a des choses claires. Dans ces cas-là, ça peut être des choses inattendues. Je vois que les deux équipes ont perdu aucun ballon sur le premier match, par exemple. Ce sera intéressant de voir si ça change. Parce qu'en vrai, quand on dit ils ont perdu aucun ballon sur le premier match, ils sont capables du coup d'en perdre plein et d'avoir un match assez fun. C'est quoi la clé pour toi dans cette rencontre ?
Eh bien, tu me l'as piqué, ma clé. Parce que j'allais justement dire les pertes de balles. Alors, pas forcément côté Eagles, parce qu'on sait que Sirianni, avec ce système très à la course, finalement, ils prennent pas de risques, parfois pas assez. Mais les Vikings, Kirk Cousins en prime time... On a vu des explosions de Kirk Cousins en prime time qui restent dans les mémoires. Donc, je dirais que pour moi, ce match, les Vikings ont tout pour le gagner et tout pour le perdre. C'est-à-dire que les Vikings, depuis des années, c'est un bon match, un mauvais match, un bon match, un mauvais match. Au bout d'une semaine, on les voit au Super Bowl. La fois d'après, on les voit top 10 de draft. Donc, il va vraiment falloir voir si avec ce nouveau coaching, ils arrivent à obtenir cette stabilité qu'ils n'ont pas forcément obtenue les années d'avant. Et je pense qu'en effet, si les Vikings ne perdent aucun ballon, bah, coup pour coup, ils peuvent gagner ce match, on va dire, à l'usure.
Oui, oui, non, mais ça va être un très beau match. Ça va être intéressant de voir si Nathaniel Hackett confirme aussi.
Pas Nathaniel Hackett.
Pardon, Kevin O'Connell. Kevin O'Connell. Je confonds les coordinateurs les coordinateurs qui ont un nouveau poste. On s'embrouille. C'est un peu l'aléa, par contre, de faire des émissions tous les jours. J'avoue que j'ai l'impression d'énormément parler. Là, tu vois, avant qu'on commence à enregistrer, je me suis dit. Oh, disons que je parle beaucoup, 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 beaucoup depuis 4 jours quand même. Je ne m'arrête plus avec le fauteuil rallongé et tout. C'est donc le moment de pronostiquer.
Bah écoute, je vais faire un Grégory Richard. Hein. Dans le doute, je gagnerai quelque chose dans ce match. Donc, je vais mettre les Vikings.
Les Vikings, pour moi aussi. On passe au prono.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, sir! We're gonna go 1-3, 1-2-3, work!
Les pronostics qui ont plutôt bien commencé en 2022, je ne le cache pas, Victor, au niveau du classement, 6 points pour Raoul, alors qu'il avait tenté des trucs un peu baroques hein, en première semaine. Donc Raoul a commencé comme ça avec 6 points, 7 points pour Lucas, 8 pour toi, pour Raphaël et Grégory, et un petit 9 pour moi sur la première semaine, donc j'étais plutôt pas mécontent. On enchaîne donc sur le format du hypomètre, et je rappellerai l'ordre des matchs à la fin, parce qu'on nous a dit que ça pouvait avoir l'air un petit peu décousu, donc on va faire la hype d'abord, et à la fin je vous rappellerai quels matchs sont à 19h, quels matchs sont à 22h, et quels matchs sont dans la nuit. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur le numéro 1 du hypomètre de la semaine, encore une fois, Victor, mais c'est encore un match qu'on avait trop peu de temps pour traiter.
Ben oui, forcément, le match le plus attendu, c'est le match du jeudi. Écoute, on ne va pas se plaindre, on a tellement eu des matchs du jeudi ignobles pendant années.
C'est quoi ce bordel de mettre des bons matchs le jeudi aussi ?
Donc, écoute, Chiefs-Chargers. Les Chiefs ont quand même déroulé offensivement en première semaine. Les Chargers ont été loin d'être ridicules face aux Raiders. Donc globalement, on a vraiment deux super attaques qui s'affrontent. Deux défenses qui ont fait le boulot aussi. On a vu les Chargers intercepter beaucoup Derek Carr. On a vu la défense des Chiefs faire le travail. Ça, des Cardinals, certes désorganisés, affaiblis, mais il fallait faire le boulot quand même. Donc là, on a peut-être les deux plus grosses hypes de AFC sur la première semaine qui s'affrontent. Donc c'est évidemment le match à voir.
Ah, clairement, match offensif de folie. Donc un peu comme le Eagles-Vikings, moi j'aime bien ces matchs pour me dire, bon bah du coup, qui a la meilleure défense ? Sur le papier, je serais tenté de dire que les Chargers ont quand même plus d'armes, mais c'est tellement massif ce qu'ils ont en face que je peux pas ne pas pronostiquer les Chiefs en l'occurrence.
Bah pour le coup, je vais te dire, j'ai hésité, mais j'ai mis les Chiefs aussi pour le coup, mais c'était vraiment close.
Il y a Raoul qui a les Chargers déjà, donc Raoul il joue le tout pour le tout hein, sur le début de la saison, et Chiefs pour Raphaël aussi, je regarde un petit peu en même temps hein, ce qui se dit dans la rédaction. Donc Chiefs-Chargers, on l'a dit, ce sera le match du jeudi. Quel est ton match suivant sur le hypomètre ?
Là, c'est pas à toi de passer. Non, on considère que c'est toi qui l'as choisi, celui d'avant.
Très bien. Ouais, celui a été tellement évident que je te laisse l'honneur d'enchaîner.
Eh ben, j'ai pris Riders Cardinals. Justement, okay. Et c'est assez rigolo puisque c'est les deux équipes qui ont perdu contre les deux équipes dont on vient de parler. Donc, j'ai envie de dire qu'on sait à quel point commencer à 0-2 peut être compliqué. Surtout dans des grosses divisions. Donc là, clairement, les questions auxquelles j'ai envie de répondre, c'est est-ce que Derek Carr peut se remettre la tête à l'endroit ? Est-ce qu'il est capable de rééquilibrer cette attaque qui a trop tourné autour de Davante Adams au détriment de Waller, de Renfro et du jeu de course ? Donc est-ce que le coach et Derek Carr peuvent reconstruire un peu cette attaque ? Et d'autre côté, les Cardinals, s'ils affrontent une défense des Riders qui est censée être faible, et bien là, il va falloir montrer que la première semaine était un accident et que Kyler Murray peut retrouver la vibe MVP qu'il avait en début de saison dernière et faire jouer cette attaque malgré les absences. On rappelle, DeAndre Hopkins, Rondale Moore, ça fait quand même beaucoup. Mais il y a des armes, donc la ligne offensive aussi doit faire mieux. Là encore, je vais surtout regarder les deux attaques parce que ces deux attaques ont déçu en première semaine. et qui doivent vraiment éviter ce terrible 0-2, même si avec 18 matchs, ça sera peut-être un peu dilué, mais ça reste une mauvaise marque.
Je l'avais assez haut aussi, c'est un match du rachat, tu l'as dit, moi je suis intéressé par ça. Les Raiders ont perdu 3 ballons, ils ont forcé en attaque, tu le disais bien, mais ils prennent que 24 points, entre guillemets, contre les Chargers, donc pour moi, ça les met un peu au-dessus, et c'est ce qui fait que je vais les pronostiquer également, mais c'est vrai que c'est un match intéressant entre deux équipes qui ont des ambitions. Raiders, donc pour tout le monde, dans la rédaction, y compris...
C'est étonnant hein, qu'on est tous eux-mêmes, alors que c'est quand même un match assez serré, c'est étonnant.
C'est vrai. C'est vrai. Le suivant pour moi, ce sera Saints Buccaneers. Il est dimanche à 19h. 4 victoires de suite en saison régulière pour les Saints contre les Buccaneers. Ils ont perdu en playoff une fois au milieu de tout ça. Mais voilà, fin de match très rock'n'roll en première semaine pour New Orleans. Je pense que la défense des Saints peut faire la différence parce qu'ils ont bien débuté. Je pense aussi que ça peut être un match très défensif, mine de rien, entre ces deux équipes. Il est intéressant, voilà. Tom Brady, il y a peu d'équipes qui accrochent très régulièrement des équipes de Tom Brady. Les Saints en font partie. Je pense que les Buccaneers cassent la série et gagnent, donc je pronostique les Buccaneers. Mais c'est un match hyper intéressant pour moi, rivalité de division et tout ce qui va avec.
Ah bah on a vu que ces deux dernières années, à part le match de playoff, je me demande s'il n'y a même pas 4 victoires des Saints, dont une où les Buccaneers mettent 0 points. Donc clairement, la défense a entre guillemets l'avantage face à Tom Brady. Après, moi, j'ai pas été convaincu par les Saints en première semaine. Je trouve que la défense a été moins bonne que prévu et l'attaque, bah, elle est à l'image de Jameis Winston, quoi. Ça peut passer comme ça peut être catastrophique. Donc j'ai pris le choix safe aussi de prendre les Buccaneers. Mais attention, parce que comme tu l'as rappelé, voilà, c'est un match historiquement qui réussit à New Orleans, donc attention.
Le suivant.
Alors le suivant, je suis toujours dans une optique rachat. Hein. Donc là, c'est Packers-Bears. Parce que, bon, évidemment, les Bears n'ont pas... Tu es là-bas ?
Je l'avais hyper bas, ouais.
Alors moi, je vais te dire pourquoi j'ai haut. Parce que bah, les Packers, déjà, comme l'année dernière, catastrophique en semaine 1. Donc est-ce que Rodgers peut remobiliser cette équipe ? Est-ce que des receveurs peuvent progresser ? Est-ce que la défense peut enfin être au niveau ? Il y a tellement de questions à répondre du côté des Packers. Et puis les Bears, écoute, bon an, mal an, victoire face aux 49ers, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, est-ce que cette équipe peut vraiment être meilleure que prévu ? Je suis pas en train de dire qu'ils vont faire une saison positive, hein, mais évidemment meilleure que prévu, au point d'accrocher un Rodgers en plein doute. Écoute, moi, ces matchs de division, je les aime, parce que ça sent le soufre. On sait à quel point Rodgers avait dit « I own your team », enfin, je suis le propriétaire de votre équipe. Bah, est-ce que ce n'est pas le bon moment pour les Bears pour faire un statement game et vraiment renverser la table ? Écoute, j'ai envie de voir. Moi, il m'intéresse vraiment.
En fait, c'est parce que j'y crois vraiment pas, qu'il m'intéresse peu. C'est pour moi, en dessous de 15 points d'écart en faveur de Green Bay, je suis un peu déçu, pour être honnête. Donc, voilà, c'est le match dans la nuit de samedi à dimanche, de dimanche à lundi, pardon, c'est le Sunday Night Football à 2h20. Ouais, pour moi, en effet, match de rachat pour Green Bay, mais qui est censé être une formalité, c'est à domicile, contre une équipe de Chicago qui gagne, mais dans des conditions quand même un peu particulières contre les 49ers. Pourquoi pas ? Je peux comprendre. Victor, j'enchaîne avec Bills-Titans. C'est le deuxième Monday Night Football. On a parlé du premier tout à l'heure avec Vikings-Eagles. C'est le deuxième Monday Night, donc à 1h du matin, horaire un peu particulier dans la nuit de lundi à mardi. Affiche de playoff quand même ces dernières années, ou en tout cas deux équipes habituées des playoffs en AFC. Sur ce qu'on a vu des Bills, forcément, il n'y a pas match. Donc je comprends qu'ils ne soient pas forcément hauts pour tout le monde. Mais... voilà, je suis quand même curieux de voir si les Titans peuvent réagir ou s'ils vont se faire enterrer très vite, parce qu'après ça pourrait descendre très vite. Est-ce que tu crois que les Titans ont une chance de s'en sortir ?
Bah écoute, si je me rappelle bien, l'année dernière, en week 1, ils se font humilier par les Cardinals et en week 2, ils étaient transfigurés. Donc je ne vais pas dire qu'une équipe coachée par Mike Vrabel avec le talent qu'il y a autour est inoffensive. Bien sûr qu'ils peuvent gagner, mais vraiment, moi j'étais en direct en plus sur le Titans-Giants. Cette équipe a été décevante à beaucoup de points de vue. Donc oui, ça va être entre guillemets un match de rachat, mais enfin un match de rachat à Buffalo. À mon avis, ils risquent de prendre la sauce. Moi, c'est pour ça que j'avais descendu un peu, parce que j'ai peur que Josh Allen roule littéralement sur cette défense.
Alors après, pour ma défense, il est aussi haut dans mon hypomètre, parce que tous les matchs des Bills seront hauts dans mon hypomètre cette année aussi.
C'est vrai aussi, c'est vrai.
Tu vois, je vois les Bills.
Non, mais on a tous envie de regarder les Bills, ça c'est clair.
C'est ça. Le suivant est pour toi.
Le suivant est pour moi. Bah écoute, je vais prendre un match de AFC. Je vais prendre Baltimore Ravens contre Miami Dolphins. Parce que globalement, les Dolphins, on a vu que défensivement, c'est fort. On le savait, globalement. L'attaque, vous l'avez dit un peu dans le débrief, c'était pas cata, mais ça reste quelque chose qui se travaille. Le rythme doit s'accélérer, les receveurs doivent être mieux trouvés. Donc là, voilà, Tua, il a la défense de Baltimore, c'est pas des peintres, hein. Donc il y a une vraie opposition en face. Il va falloir qu'il montre plus. Ça va être très intéressant. Et puis, un peu comme tu dis, les Bills, on les regarde chaque semaine. Bah moi, la saison, la prove-it season, enfin la saison de Lamar Jackson pour avoir son contrat à 300 millions, là, je sais pas, j'ai envie d'avoir parce que j'ai l'impression qu'il peut nous faire des trucs vraiment sales. Et pareil, hein, il va affronter une défense, je l'ai dit, hein, qui est vraiment bonne. Donc il y a des tests des deux côtés. Et alors celui-là, il y a un potentiel 13-10, tu sais. Le match vraiment défensif, vraiment sale, qui se gagne sur un field goal de Tucker de 78 yards, évidemment, contre le vent à la fin du match. Je sais pas, j'aime bien cette opposition, ça s'en souffre.
Je suis totalement d'accord avec toi pour le côté test et test. Je pense que ça devrait confirmer pas mal de choses, mais complètement d'accord. Et d'accord aussi sur Lamar Jackson qui va faire une saison énervée pour avoir son contrat. Et je vais te dire, c'est tout à fait bien puisque c'est le quarterback de mon équipe fantasy. Donc je suis totalement pour la saison vénère de Lamar Jackson et je vais pronostiquer les Ravens comme tout le monde dans la rédaction. Cowboys-Bengals pour moi. Ensuite,
ah bon
dimanche à 22h25.
D'accord.
Parce que match du rachat pour les Bengals et je ne vais pas enterrer une équipe qui a joué le Super Bowl. Je suis encore curieux de voir une équipe qui a joué le Super Bowl l'an dernier. Je pense qu'ils peuvent faire un très gros match en main de vengeance. Surtout que les Cowboys sont un peu en état de choc là quand même. Après, attention à on parlait de test, Micah Parsons contre la ligne des Bengals. Hein.
Ouais.
Donc voilà, pour moi, c'est encore un test pour la ligne des Bengals. Mais j'attends une victoire facile de Cincinnati. Je veux voir une victoire facile de Cincinnati et qui prouve qu'ils peuvent gagner ces matchs comme ça, qu'ils doivent gagner sans se faire peur. C'est ça que je veux voir dans ce match-là. Et c'est un peu comme les Bills, je suis un peu biaisé par le facteur fun de Joe Burrow et Jamar Chase. Donc ça les fait gagner quelques places à chaque fois.
Ah ouais, donc moi, je les avais 16e hein, ce match. Vraiment.
Ah ouais.
Je pense que ça va être une boucherie. Enfin, honnêtement, sans Dak, avec cette attaque, même avec Dak Prescott, l'attaque des Cowboys, c'était pénible d'avoir. Alors, sans Dak Prescott, je pense que ça va être l'équipe la moins fun de la ligue à voir.
Tu préfères te farcir un Niners CEO
tous les jours. Ah, mais tous les jours. Je pense que ça va être.
Le Giants Panthers?
Ah oui, oui, mais oui. Mais oui. Ça va être une boucherie. Franchement, honnêtement, oui. Là, les Cowboys, sans Dak Prescott, l'attaque, ça va être un poulet sans tête. Et le poulet, il est déjà pas en bon état. Donc, moi, je pense que ça va juste être une boucherie de A à Z.
Oui, mais attends, moi, je m'en fous que ce soit une boucherie ou que ce soit serré. Je veux voir un match maîtrisé des Bengals.
Ah non, moi, je veux des matchs serrés, moi. Moi, je monte des matchs.
Ah,
mais
on n'a pas les mêmes critères. Non. Alors, qu'est-ce que tu me proposes derrière? On n'a pas pronostiqué, donc Bengals tous les deux, hein, si je comprends.
Oui. Bengals tous les deux. Eh bien, écoute, je vais continuer dans des matchs serrés qui ne sont peut-être pas hype pour beaucoup. Lions-Commanders.
Oh,
ah, mais ouais. Oui, monsieur. Mais oui. Écoute, pour plusieurs raisons. Déjà, les Lions, en première semaine, je les ai trouvés intéressants. Ils sont en progrès. Et j'ai envie de voir s'ils peuvent, sur plusieurs semaines, montrer que ces progrès ne sont pas juste le fruit d'une bonne semaine et qu'ils sont capables de faire des choses. Et d'autre côté, les Commanders, bah, avec la blessure de Dak Prescott, la division, et avec tout le respect que j'ai pour les Giants, elle va se jouer entre Commanders et Eagles. Donc il va falloir que les Commanders, très rapidement, ils accumulent des victoires. En troisième semaine, il y a un Eagles-Commanders. Donc les Commanders, ils doivent vraiment accumuler de la confiance. Est-ce que Carson Wentz va réussir à être plus régulier et pas roller coaster comme il a été en première semaine? Il y a des armes partout. Moi, je suis désolé, cette équipe des Commanders, elle est fun. Il y a McLaurin, il y a Dodson, il y a Gibson.
J'allais faire une blague parce que tu dis est-ce que Carson Wentz va être irrégulier? J'allais dire est-ce qu'il va pas pleuvoir un seul jour en Normandie cette année? Mais avec le dérèglement climatique, c'est possible. Alors, c'est un mauvais exemple.
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il va faire chaud dans le sud, quoi? Est-ce que Carson Wentz va être irrégulier? Je sais que t'as voilà, il est passé par les Eagles et tout ça. Mais c'est Carson Wentz, tu vois, on sait très bien. T'as vu ce qui s'est passé à Indianapolis l'an dernier?
Oui, mais c'était en fin d'année. C'était pas au début.
Oui, oui, non, mais. Non, ah, mais après, ils sont. Après, je suis d'accord avec toi, ils sont ultra fun. Hein. Dodson, McLaurin, Gibson, il y a plein de trucs fun dans cette équipe. Après, mine de rien, la défense, elle prend 400 yards contre les Jaguars. Donc, oui. Avec ce que les Lions ont mis la semaine dernière aux Eagles, personnellement, je vais parier sur les Lions.
Cette défense de Washington, c'est une déception permanente depuis une saison et un match, du coup. Et il y a bien un moment où soit ils vont se réveiller, soit définitivement, ça va les tuer. Mais je sais pas, il y a un potentiel upset. Hein. Enfin,
ça dépend. Pourquoi tu dis upset? Il y a un favori vraiment là-dedans?
Oh, pour moi, c'est les Commanders quand même.
Ah bah tu vois, moi ça me dérange. Alors j'ai vu que chez les bookmakers US d'ailleurs, c'était la première fois en 24 matchs que les Lions étaient favoris.
Ah bon? D'accord, ouais. Intéressant.
Donc tu vois.
Moi je mise les Commanders quand même.
Allez, c'est très partagé dans la rédaction. Raphaël a les Commanders, Raoul a les Commanders, Lions pour Grégory et Lucas. On n'a pas encore son prono au moment
où
on
enregistre. Et toi, tu as les Lions, on dit.
J'ai les Lions, du coup, ouais, je prends les Lions. Je enchaîne avec 49ers Seahawks.
Ok.
Là, on commence à arriver dans le territoire où c'est le ventre mou, là, je sais plus trop. 22h05 dimanche. C'est pas facile. Je pense que Kyle Shanahan va leur faire moins de cadeaux que Nathaniel Hackett, quand même, aux Seahawks. Il va les pilonner au sol, les conditions seront meilleures. Geno Smith va pas reproduire ça. Je sais pas en fait pourquoi j'ai mis ce match si haut. Je suis en train de réaliser en le disant que.
Bah, ils vont les pilonner au sol, il faudrait déjà qu'ils aient des running backs qui tiennent sur deux jambes. Mais...
Ouais, ouais. Non, je sais pas pourquoi j'ai mis ce match si haut en fait.
Après, les Seahawks ont quand même fait une performance plus que solide en première semaine, bien coachée.
Ils ont joué du temps et puis.
Ah bah écoute, on peut pas leur enlever qu'ils sont à 1-0, ils sont leaders, ils sont seuls leaders de la NFC West. Les hommes mentent pas des chiffres, hein, monsieur.
C'est vrai. Écoute, bah curiosité, je regrette, mais bon, curiosité pour voir ce que Seattle va enchaîner et surtout Trey Lance dans des conditions normales. Voilà, je vais le vendre là-dessus. Trey Lance dans des conditions normales et je pronostique 49ers.
Je pronostique 49ers aussi, mais on a tous envie de voir ce que va donner Trey Lance cette année. Le facteur fun de Trey Lance, il fait monter tous les matchs des 49ers pour moi.
Le suivant.
Ben, je vais prendre Broncos Texans, quand même.
Team Davis Mills.
Team Davis Mills, évidemment.
C'est notre facteur fun à nous.
En tout cas, les Texans sont mon facteur fun que j'assume.
Oui, non, mais je te dis ça parce que je suis tout seul, moi, tu vois, dans l'équipe du débrief à défendre Davis Mills et les Texans. Je me sens seul à chaque fois. Je pense à toi, tu vois. Je me dis, ah, si Victor était là, il m'aiderait, tu vois, à défendre Davis Mills et les Texans. Mais moi, c'est mon facteur fun et j'y crois plus. Si tu as entendu l'émission d'hier, Greg me disait qu'il pensait quand même que c'était la pire équipe de la ligue avant le début.
Non, mais il me l'avait dit aussi au Hard Rock et moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais pour le coup, bon, bah, évidemment, quand même, ce qu'on veut le plus voir, c'est le match rédemption des Broncos, hein. Parce qu'ils perdent un match imperdable où ils font deux fumbles sur les 1 yard des Seahawks. Il y a un moment, Russell Wilson, il va falloir se réveiller rapidement parce que saison moyenne l'année dernière, premier match moyen, il est payé 250 millions. Donc, il y a un moment, il va falloir tirer cette équipe vers le haut. Donc, l'attaque a, on va dire, fait perdre de matchs. Alors, pas sur la production pure, mais vraiment sur les fumbles. Bon, après, Wilson n'y était pas pour grand-chose, hein, j'entends bien. Mais là, il faut vraiment faut gagner de 25 points, quoi. Je veux dire... Si vraiment tu veux donner le message que voilà, c'était juste une mauvaise première semaine, bah, tu gagnes de 25 points. Surtout que le compte Twitter des Broncos commence à dire « Oh, arrêtez de tous surréagir ». Bah ouais, mais réponds sur le terrain dans ce cas.
Ouais, et puis il n'y a pas l'excuse de l'effectif, quoi. Jerry Jeudy, Sutton, ça a montré des trucs. Enfin, ils doivent marcher sur ce match, je suis d'accord avec toi. Même si j'apprécie beaucoup Davis Mills et compagnie, ça fait Broncos pour moi. Broncos pour toi aussi?
Oui, Broncos, oui.
Je reste en AFC avec Steelers Patriots. Mac Jones, c'est l'attaque des Patriots contre la défense des Steelers. Même sans TJ Watt, franchement, ça fait peur. Ça pue le match fermé. et je sais pas pourquoi ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une sorte de désir un peu malsain de se dire, est-ce que je l'ai dit dans l'émission d'hier en plus, tu vois, est-ce que c'est enfin la saison où les Patriots vont souffrir un peu? Et donc là, tu vois, ils se font aplatir peut-être par les Steelers, même sans TJ Watt, et ça fait 0-2, et peut-être il y a une sorte de curiosité un peu mauvais esprit, tu vois, de dire, ils sont à 0-2 quand même pour une fois. Ça arrive pas souvent, ça a pas dû arriver souvent. Non, mais en vrai, il y a de la curiosité aussi côté Patriots, parce que j'aimerais bien voir ce que cette attaque peut faire. Ça va être un gigantesque test. Et c'est pour ça que je vais sur les Steelers, hein, pour le pronostic. Raphaël va sur les Pats. Mais moi, je vais sur les Steelers et le reste de une majorité de la rédac va sur les Steelers.
Oui, je pense que, tu sais, souvent on dit que la pré-saison n'est pas une indication et tout. Bah là, la pré-saison, elle a été quand même une indication hein, pour les Patriots. Ils ont été aussi mauvais en pré-saison qu'en première semaine. Il y a vraiment une attaque qui est en ruine. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, il va falloir se réveiller et se réveiller très vite. Comme tu dis, les Steelers, même sans TJ Watt, ça reste une très bonne défense. Moi, ça va être moche, mais j'ai peur que ça soit beaucoup plus moche du côté des Patriots que du côté des Steelers.
Tout à fait possible. Pour toi, tu y as quoi ensuite? Alors, il reste Rams, Falcons, Jaguars, Colts, Giants, Panthers, Browns, Jets. Là, on est vraiment dans le moment où tous les rédacteurs ont choisi leur match et qu'il me reste ça à me répartir avec Raphaël, moi, en général, le dimanche.
Je vais partir sur Rams, Falcons, quand même. Parce que bon, les Rams, ça reste une équipe fun, quoi. Enfin, je veux dire, Matthew Stafford, Cooper Kupp, Darren Anderson, Cam Akers, s'il joue.
Du coup, c'est un peu comme Bengals, un peu comme Broncos, machin. C'est match rachat en dessous de 15 points d'écart, on est déçu, quoi.
Oui, oui, oui. Et puis, impliquer Allen Robinson aussi, voir si la défense peut faire mieux. Parce que, est-ce que tu peux vraiment pénaliser la défense parce qu'elle a pris le bouillon contre les Bills? Je pense qu'ils sont pas les premiers et ils vont pas être les derniers à prendre le bouillon contre les Bills cette année. Moins de pertes de balles, ça il va falloir surveiller. Donc, et puis du côté des Falcons, bah écoute, première semaine encourageante, donc à voir s'ils peuvent confirmer. Comme tu le dis, alors j'aime pas parler de défaite morale, mais s'ils arrivent à accrocher les Rams jusqu'au bout, bah écoute, tant mieux pour eux. Donc on va dire que les Falcons mènent de 10 points à la fin du quatrième quart-temps et ils perdent de 15 points quand même.
Donc Rams pour tout le monde, Colts non, Jaguars Colts pour moi derrière.
Ouais.
Bon là on commence à être dans la partie où je suis moins convaincu, mais Jaguars Colts parce que les Colts, moi je l'ai dit, j'ai été positif dans l'émission de mercredi, ils se sont quand même bien remis en place sur la fin du match, une sorte de momentum de quatrième carton. Je me dis peut-être qu'il fallait qu'ils se chauffent et puis qu'ils vont dérouler contre les Jaguars. Parce qu'en vrai, je pense que c'est la revanche du match qui les sort des playoffs l'an dernier. Alors, ils ont changé de quarterback hein, depuis. Matt Ryan est arrivé. Les Colts changent de quarterback tous les ans. C'est une tradition. Mais voilà, je pense que honnêtement, c'est un match qui est quand même largement à la portée des Colts. Tout en étant une opposition de division qui pourrait être serrée. Donc, bon, c'est pas inintéressant hein, comme match. Il y aurait pire à regarder cette semaine, à mon avis. Et donc, les Colts, pour moi.
Oui, c'est toujours des matchs pièges. Hein. Et tu l'as dit, on l'a vu en semaine 17 l'année dernière où les Jaguars étaient éliminés. Et pourtant, ils arrivent à battre les Colts. Je suis assez d'accord avec toi que les Colts étaient meilleurs en deuxième mi-temps, mais là, il faut passer à seconde, quoi. C'est-à-dire que les Jaguars, qui n'ont pas été inintéressants contre les Commanders, mais qui ont toujours cette magnifique capacité à s'auto-saborder, qui, quel que soit le coach ou les joueurs, ça, ils ne nous déçoivent jamais, les Jaguars. Ouais, il y a une vraie question. Il y a une vraie question et les Colts doivent, là encore, passer un message. On est là, on est de retour, ne nous mettez pas dehors.
Alors, il te reste un choix incroyable entre les deux équipes de New York, grosso modo.
Oh bah moi, il n'y a pas de débat. Pour le coup,
je pense aussi.
Giants-Panthers. Écoute, les Giants, bah, ils ont fait une belle deuxième mi-temps contre les Titans. On a vu un Saquon Barkley vintage, on va dire. Bon, Daniel Jones portera toujours cette équipe vers le bas, hein, mais malgré tout, il y a une ligne qui progresse, il y a une défense sous Martindale, là, qui a fait un très bon premier match. Donc, à voir. Du côté des Panthers, malheureusement, ça a été correct, mais limité contre les Browns. Mais bon, il y a quand même Baker Mayfield, il y a quand même des armes offensives, il y a Christian McCaffrey, etc. Et donc, il y a quand même un effectif correct. Moi, je pense que c'est le genre de match que les Panthers doivent gagner.
Ah oui.
Parce que si tu commences... Enfin, il y a quand même du talent hein, chez les Panthers. Si tu commences à perdre des matchs contre les Giants, là, t'es foutu. Donc, se ressouder, capitaliser sur la fin de match de la semaine dernière. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire, les Giants, bah alors, s'ils démarrent à 2-0, là, j'ai envie de te dire, Brian Daboll, il est tranquille pour toute l'année. Hein, même s'il fait 2-15, limite, ils auront fait leur objectif de l'année. Franchement, bravo à Brian Daboll, bravo à Martindale, qu'on tirait le meilleur de cette équipe. Donc, ils n'ont rien à perdre.
Après, moi, je résumerai ça en ces deux équipes irrégulières. Les Panthers se sont plantés, donc ils vont gagner. Les Giants ont gagné, donc ils vont se planter.
Oui, disons ça comme ça.
Voilà, Panthers pour moi. Et je termine donc avec le magnifique, le merveilleux, l'incroyable opposition entre les Browns et les Jets dimanche à 19h. Attention, Robert Saleh a dit qu'il prenait les noms de tous ceux qui se moquent. Il va avoir un dictionnaire des noms propres à la maison. Est-ce qu'il faut faire jouer Mike White plutôt que Joe Flacco? C'est à peu près la seule question. 5 touchdowns, 8 interceptions pour lui l'an dernier. Hein, il avait joué un peu.
Ouais.
Tu préfères qu'on te coupe la jambe droite ou la jambe gauche?
Je sais pas quoi penser de ce match. Les Jets, vraiment, c'est... Je suis désolé hein, pour les fans, mais c'est vraiment l'opposition du fun. Quoi. C'est le non-fun absolu. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui va te faire rêver.
Je parlais de la prime aux Bills. Clairement, il y a une prime aux Jets dans l'autre sens, pour moi, dans les hypomètres à chaque fois.
Donc voilà, les Browns vont gagner au sol, comme ils savent le faire. Ça sera moche, mais ça va gagner. Et puis, on regardera 40 minutes de ce match en se demandant pourquoi on n'a pas regardé les highlights. Quoi. Franchement, je ne vois pas d'autre. J'ai vraiment un espoir zéro pour les Jets, pour l'instant. Alors, on verra avec le retour de Wilson, mais pour l'instant, vraiment, c'est dur. Hein.
Et dis-toi que c'est sûrement moi qui vais faire ce résumé de match.
Et ça, c'est beau.
Les Browns pour moi, les Browns pour tout le monde, donc.
Ouais.
Allez,
je pense que
les Browns pour tout le monde. Je vous résume le programme. On a fait là dans l'ordre de la hype, mais je vous résume dans quel ordre ils vont se jouer. Donc, le jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi, Chiefs-Chargers à 2h20 du matin. Dimanche à 19h, vous aurez Ravens-Dolphins, Browns-Jets, Lions-Commanders, Jaguars-Colts, Saints-Buccaneers, Giants-Panthers et Steelers-Patriots. 22h, vous aurez Rams-Falcons, 49ers-Seahawks, Cowboys Bengals, Broncos Texans et Raiders Cardinals. Et dans la nuit de dimanche à lundi, 2h20 du matin, le Packers Bears. Et le Monday Night Football, vous en avez deux cette semaine, donc dans la nuit de lundi à mardi, à 1h, Bills Titans et à 2h30, Vikings, c'est les Eagles qui reçoivent, je donne toujours le nom de l'équipe.
Et deux matchs se chevauchent, hein, ce qui est assez rare pour le dire, parce qu'en général, les diffuseurs arrivent à trouver des ententes et là on ne sait pas pourquoi il y a eu apparemment une bisbille et deux matchs se chevauchent.
Très, très étrange, d'autant que le double Monday Night généralement c'est plutôt la semaine 1 que la semaine
2. Oui, et en général c'est l'un après l'autre et là, oui. Là apparemment il y a eu une petite bisbille entre ESPN et NBC je crois et du coup ils ont dit bah, on se chevauche, c'est pas grave.
Et bah double Monday Night. Les cotes Unibet cette semaine, alors là, il va falloir y aller doucement. Hein. On le dit à chaque fois, jouez avec prudence, jouez comporte des risques, fixez-vous des limites, faites-vous aider s'il y a des problèmes, on le redit à chaque fois. Et alors surtout, encore une fois, cette semaine, on y va doucement parce que tous les matchs, ils sont incertains. Et donc là, franchement, pour trouver des bonnes cotes, alors il y en a, hein, y a des bonnes cotes, mais tous les matchs, moi, j'ai du mal à me décider à... Les Vikings m'ont fait gagner quelques euros la semaine dernière face aux Packers. Est-ce que tu irais jusqu'à remettre par exemple sur les Vikings? Ils sont à 2-0-2 contre les Eagles.
Oui, il y a Vikings, il y a Panthers qui sont à 2-0-1 contre les Giants et Giants sont favoris.
Bon. Ah oui, ouais.
Bon, pour le coup, voilà. Mais comme tu dis, alors vraiment, c'est une semaine très difficile hein, pour les paris. Mais oui.
D'autant qu'il y a beaucoup de bonnes cotes parce que du coup c'est très incertain, donc il n'y a même pas de favoris avec des cotes à l'aise, encore une fois un peu plus bonnes pour des favoris. Il y a Ravens à 1,47, j'ai envie de te dire.
Il y a Steelers, les Patriots sont favoris contre les Steelers. Alors moi les Steelers à 1,90, j'ai envie de les mettre aussi.
Ouais, mais c'est vraiment un match casse-gueule. Hein.
Ouais, il n'y a que des matchs casse-gueule. Hein.
Moi, je te propose Ravens à 1,47 pour jouer un favori.
Mais c'est un match casse-gueule aussi, hein, contre les Dolphins.
Oui, bah, ils sont tous. Hein. Cette semaine, on vous prévient, ils sont très très durs hein, cette semaine. Donc, Ravens à 1,47 contre les Dolphins, Panthers à 2,01 contre les Giants et Vikings à 2,02 contre les Eagles.
Vas-y.
Allez, ça fait 5€ misé, 29,84€ de gain potentiel. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez tous les jouer de manière individuelle, ces matchs. Si on fait le YOLO, bah là, on peut YOLOter, hein, clairement. On peut YOLOter. Mais, ah ouais, il y a des très grosses cotes, hein, aussi. Parce que t'as un 4,50 pour les Falcons, mais bon, là, ça va très loin.
T'as un 4,10 est-ce que pour tu crois vraiment que les... ça va très loin.
Est-ce que tu crois que les Seahawks peuvent récidiver, du coup, dans leur duel de division, là ?
Non, pas vraiment. J'avais Chargers qui sont à 2,60 contre Kansas City.
Ça peut... Allez, on fait un YOLO si vous nous écoutez jeudi matin.
Ah, donc, oui, non, pardon. 2,60. Attends.
Ah, bah ouais.
Ah, mais on va faire autre chose. Les Saints qui battent les Buccaneers. Ah, ouais, mais 2,11, tu vois, ça donne pas envie. Hein. Ça donne pas envie, moi, je te le dis.
Bah, les Jaguars, là, Trevor Lawrence. Les Commanders à 2 déjà. Parce que tu as parié les Commanders. Ouais. Les Commanders à 2. On les rajoute au YOLO. Les Cardinals à 2,72 dans un match incertain contre les Raiders.
Vas-y.
Et puis, moi je te dis, sinon, si c'est un vrai YOLO, bah, les Titans qui créent la surprise contre les Bills. De toute façon, elle est tellement dure cette semaine que n'importe quel contenu est compliqué.
Je suis d'accord. Bah vas-y.
Donc allez, les Titans pour la folie. La folie, c'est vraiment là le YOLO de l'extrême parce que vraiment tous les matchs sont à pile ou face. Vikings à 2,02 contre les Eagles, les Panthers à 2,01 contre les Giants, les Ravens à 1,47 contre les Dolphins, les Commanders à 2 contre les Lions et on monte avec les Cardinals à 2,72 contre les Raiders et les Titans à 4,05 contre les Bills parce que c'est la folie, c'est une revanche. Ils se sont joués en playoff, non, récemment ?
Tiens, une bonne question.
Il y a 2 ans, non ?
Oui, c'est ça, quand les Titans vont en finale de conférence.
Ouais, possible.
C'est ça, oui. Ben oui, parce que les Bills gagnent les Texans et je crois qu'ils s'affrontent derrière. Ouais.
Donc pour ce YOLO de l'extrême, on est à 5€ misé, 706,42€ de gain potentiel. Si on est raisonnable, on met qu'un seul petit euro là-dessus et c'est 141,28€ de gain potentiel. Ce serait déjà très très bien parce que c'est vraiment un YOLO de chez YOLO, celui-là. Merci beaucoup, Victor. C'est comme ça que se termine cet épisode numéro 505 du podcast Touch on Actu. On vous remercie de nous écouter, on vous remercie de nous suivre et de nous soutenir sur Tipeee, de laisser des notes sur les applis de podcast, etc., etc. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, sur donc Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram Touch on Actu en entier, TikTok @TDActu, @Victor Roulier si vous voulez parler à Victor sur Twitter @AlainMattei. Pour moi-même, toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. Vous retrouvez toute l'équipe. Et donc Victor et Jean-Mi demain pour parler draft. Samedi, ce sera la rétro. Dimanche, 17h30, le fauteuil. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.